55 dans le pit stop, 14h.
Go
Habs
go!
Go Habs go! Go
Habs go, là! Keep on rolling, baby! Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi. Et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h55. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Bon lundi soir, merci d'être là dans le podcast de Marceau le soir. Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'accueillir Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice, avocat chez Bellemare Avocat.ca, spécialiste de la SAC, de l'IVAC et de la CNSST. Maître Bellemare, vous êtes salué.
Hey, comment ça va, mon cher Yannick?
Ça va très bien. On avait un super de beau week-end côté sport. On a eu le match du Canadien contre la Caroline samedi. On avait le Grand Prix de F1 à Montréal. Montréal brillait de tous ses feux et de ses nids de poule, disons-le. Mais somme toute, un super de beau Grand Prix. J'ai adoré l'expérience de ma fin de semaine, même si j'ai pas eu la chance d'assister au Grand Prix, mais je le regardais à la télé. C'était vraiment le fun.
Ben oui, il n'y a pas de nid de poule sur le circuit Gilles Villeneuve, ça me surprend.
Non, il y a des marmottes, par exemple, puis il y a des écureuils. Pour ce qui est des marmottes, Maître Bellemare, je jasais de ça avec mon équipe ce matin, là. On est-tu à l'image? Tu sais, ce qu'on n'est pas capable de faire actuellement, là, sur cette petite île-là où il y a un circuit, le circuit Gilles Villeneuve, on n'est pas capable de régler la problématique des marmottes. Encore, c'est vendredi, il y a un pilote qui a failli se tuer. Là. Il a pogné une marmotte, il a pogné le mur, il a détruit son véhicule. Maître Bellemare, ça fait, à chaque année, il y a des Grands Prix de F1, puis à chaque année, il arrive des catastrophes de même avec des marmottes. On demande pas de tuer marmottes, on demande de les déporter, on demande de régler le problème. On aurait déplacé peut-être une trentaine de marmottes dans les derniers jours. Ils devraient se préparer comme 2-3 semaines d'avance pour être sûr certain de capturer le plus de marmottes possible. Il y a quelqu'un qui me racontait hier qu'on avait utilisé des chiens avec des maîtres chiens pour pouvoir faire le tour des marmottes pour que les chiens répandent leur odeur. Et ça voudrait dire aux marmottes, sors pas de ton trou parce qu'il se passe quelque chose en fin de semaine. C'est du grand n'importe quoi. Imaginez-vous, là, imaginez-vous la première position qui est sur le point de gagner son Grand Prix, puis dans la dernière courbe, boum, rentre dans une marmotte, puis on aurait eu l'air d'une gang de tatas à l'international, pas capable de régler un problème de marmotte, qui est un problème récurrent là, au circuit Gilles Villeneuve, là.
Ouais, on est en pleine nature. Il faut comprendre quand même que c'est une île.
Ben, c'est une île.
C'est pas, tu sais, à Monaco puis à Barcelone, il y a des Grands Prix dans des milieux très urbanisés où il n'y a à peu près pas de... aucune bébite qui peut circuler. À Montréal, évidemment, c'est sur une île, alors c'est un peu plus difficile, mais je peux pas croire, Yannick, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à ça. C'est sûr qu'il regarde ça, parce que t'as raison, une marmotte, ça peut faire dévier la direction. Ces véhicules-là circulent à tellement une haute vitesse qu'une simple distraction peut te faire perdre ton titre, puis ça peut provoquer un accident.
Exact.
Ça peut arriver. Parce qu'à haute vitesse, tu pognes une marmotte d'un certain volume, c'est pas un écureuil, là, c'est gros une marmotte.
Comme c'est arrivé vendredi, ça aurait pu être pire. Le pilote aurait pu être tué par une marmotte sur le circuit. Puis, tu sais, on dit ça, puis on dit, ouais, mais normalement, il y a sûrement des gens qui y ont pensé. Maître Bellemare, il y a des nids de poules à la grandeur du Québec. Montréal, là, c'est... On a l'impression que ça a été bombardé. On dirait que c'est un temps d'après-guerre, les routes à Montréal. Même chose pour Québec, Trois-Rivières, Drummondville, Saguenay, c'est la même chose. On les voit, ces trous-là, puis on ne règle pas le problème.
Oui, mais en tout cas, il n'y a pas de trous sur le circuit Gilles Villeneuve, mais il y a des risques d'accident à cause des bébites. Puis je peux te dire une chose, moi, je fais beaucoup de dossiers d'assurance automobile.
Oui.
Et il y a de plus en plus de gens qui sont victimes d'accidents à cause des dindons.
Les dindons sauvages.
C'est notre nouvelle trouvaille, les dindons. T'sais, il y a 20 ans, il n'y a personne qui disait « moi, je vais frapper un dindon ». Il y en a qui disaient « je vais frapper une vache », il y en a qui disaient « je vais frapper un chien », « je vais frapper un chevreuil », mais là, il y en a de plus en plus parce qu'ils se rapprochent des villes. Et nos villes sont de plus en plus étendues, fait qu'on se rapproche de la nature et évidemment, il y a une, il y a une faune importante là, qui peut provoquer des accidents. Puis ça, c'est la responsabilité de la SAC. Hein. Si tu frappes un... J'ai un client, moi, sur la côte nord de Québec, là, près de Bercimis, qui s'en allait travailler sur le chantier d'Hydro-Québec, sur la côte nord, et il a été frappé par un orignal. Ça fait des méchants dommages. Là. C'est pire qu'une marmotte, parce que ça tu pognes ça avec ton windshield,
ouais.
Ça roule sur le windshield, puis ça va sur le toit, puis à cause des panaches, ça vient rentrer dans le char, puis ça peut te briser la tête en morceaux.
Ça vient te dire bonjour.
Mais les marmottes, c'est plus les questions de... À cause de la très haute vitesse et à cause de l'obstacle que ça représente, il ne s'attend pas à ça, le pilote. Il peut bifurquer de sa voie, ne serait-ce que de quelques centimètres, puis ça peut changer le résultat de la course.
Parfaitement,
et ça peut
d'accord.
causer un accident. Ouais.
Mais bref, je ne sais pas. Je fais juste une prédiction, Maître Bellemare, puisqu'on est au Québec. Si on était ailleurs, je ne ferais pas cette prédiction-là, mais puisqu'on est au Québec, là, je vous garantis que dans 365 jours, vous et moi, on va se parler. Puis on va se dire qu'encore une fois, les marmottes ont semé du dommage au Grand Prix de F1. On ne réussira pas à...
Ça peut arriver. Mais écoute, ils ont tellement rentré de bacon en fin de semaine.
Et...
Hey, ils ont des records d'assistance.
Ouais.
Il y avait une température très ordinaire.
Ouais.
Le ciel était plein. Et les estrades aussi. Et les prix sont élevés. Puis les gens se déplacent. Puis pas tous des vieux. Là. Il y a beaucoup de jeunesse là. Beaucoup, beaucoup de jeunesse qui vont voir le Grand Prix. Je ne sais pas où ils prennent l'argent, mais il y en a au Centre Bell avec nos Canadiens qui avancent tranquillement dans les séries.
Ouais.
Il y en a au circuit Gilles Villeneuve. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de pauvreté au Québec, mais faut croire qu'il y a certaines poches qui sont encore pleines.
Ah, il reste du monde avec de l'argent. Ce matin, je regardais avec mon collègue de travail du matin, je regardais le prix des billets dans la section, là, dans le pit en haut à Montréal pour ce qui est de ce soir. Et il restait des billets à peu près autour de 380 $ du billet. Fait que c'est quand même très élevé pour certains, là, mais ce que Max me disait, puis c'est un utilisateur régulier de ce type de billets-là là, en série, il me disait que c'était pas cher actuellement, à 380 $. Là.
Ouais, ben, c'est ça, mais il y a plus de prix d'un 4 chiffres, là.
Oui, bien oui. Ça, si vous êtes en bas.
Si vous êtes en bas. Dans les 1000, entre 1000 et 5000, peut-être. Là,
si vous êtes en bas. Mais il y a une gang qui est partie de Montréal et Québec qui ont embarqué dans un avion de Kronos Aviation. 1 900 $ pour une journée. Donc, vous embarquez dans l'avion. C'est un vol privé. Vous débarquez en Caroline. Vous embarquez dans l'autobus. Vous vous rendez à l'amphithéâtre des Hurricanes de la Caroline. Vous assistez au match. C'était le cas samedi. Puis ça n'a pas été un gros match pour le Canadien. Heureusement que ça s'est fini en période de prolongation. Là. Mais après ouais. ça, ben, tout ce beau monde-là est revenu à Montréal et revenu à Québec. Mais 900 $ quand même. Je trouvais que le prix était très élevé. Là, 500 $ de plus. Et on est dans un resort 5 étoiles dans certains pays.
Oui, c'est plus que 200 $ du lancer.
Oui, exact.
Parce que si on était payé, parce que j'étais avec mes deux fils samedi, puis je me disais, est-ce qu'on peut gagner un match de hockey avec 8 lancers? Et mon plus jeune me rappelait que le Canadien avait gagné contre Tampa Bay avec 9 lancers, c'est
ouais,
bien ça?
Oui, exact.
Est-ce que tu?
Oui.
9 lancers.
Oui. Maître Bellemare, j'avais des questions à vous poser par rapport à votre travail. Vous êtes un avocat, vous exercez contre l'IVAC, la SAAC, la CNESST. Il y a le père des deux jeunes victimes dans le secteur de Beauport qui est venu me voir la semaine dernière, puis il m'a demandé de vous poser une question. Ces deux frères qui se sont fait frapper par un chauffeur qui... n'était pas tout à fait dans le bon état. Et les deux petits gars, dont un s'en est sorti peut-être un peu plus, entre guillemets, facilement que l'autre. L'autre a été traumatisé crânien. Là. Ça n'a pas été... il n'a pas été chanceux dans ce cas-ci. Mais le père et la mère se posaient des questions à savoir, puis ils me l'ont appris en même temps, il y aurait deux régimes auxquels il y aurait droit, mais il faut qu'ils en choisissent un des deux. La SAAC ou encore l'IVAC dans ce dossier-ci?
Quand c'est un acte criminel sur la route,
ouais.
C'est la loi de la SAAC qui a priorité. C'est sûr que cette loi-là va s'appliquer.
Ouais.
Et moi, je pense que c'est mieux d'aller sur la SAAC. Les indemnités sont plus intéressantes que sur IVAC, surtout avec le changement de régime qu'on a eu avec Jolin Barrette en 2021, là, la loi de la SAC, évidemment, n'est pas parfaite, mais plus avantageuse. Et c'est là qu'ils doivent s'adresser en produisant une réclamation dans les 3 ans. Maintenant, c'est des enfants, hein?
Oui.
C'est des mineurs.
Oui.
Alors, les mineurs, il faut s'en occuper de façon toute particulière parce que c'est vrai que c'est un régime d'assurance automobile au Québec public qui permet d'avoir des indemnités dans l'immédiat, c'est-à-dire les traitements, parce que ces jeunes-là, évidemment, n'ont pas de job. Il n'y a pas de remplacement de revenus pour un enfant. Il peut y avoir des indemnités pour un retard aux études. S'il y a des sessions qui sont manquées, encore là, ils sont trop jeunes pour l'école, je crois bien, si je me souviens bien du cas.
Bien, 7 et 11 ans sont à l'école.
OK, 7 et 11 ans, donc ils sont probablement en deuxième année, puis en quatrième année ou cinquième. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir du retard dans les études, ce qui peut permettre d'avoir une indemnité. Mais il faut surtout très, très bien s'occuper au niveau des traitements, parce que s'il y a des blessures qui passent sous le radar et qui ne sont pas diagnostiquées, puis que ces gens-là, à l'âge adulte, à 25, 30 ans, développent des difficultés, surtout des difficultés au niveau cérébral, là, la concentration, l'attention, la mémoire, les traumatismes crâniens, ça peut être difficile pour eux de faire accepter le lien. Si le dossier se ferme avec des blessures souvent plus ou moins identifiées. Et souvent, c'est souvent ce qui arrive avec les enfants. Les médecins vont vite un peu. « Ah, il est en forme, il est correct, il va retourner à l'école. » On ne s'occupe pas vraiment d'évaluer les séquelles correctement en prenant pour acquis qu'il y a des difficultés d'apprentissage qui sont normales chez un enfant de cet âge-là. Fait qu'il faut vraiment travailler très fort pour que toutes les blessures soient identifiées et reconnues au cas où il y aurait une aggravation. Parce que si les blessures ne sont pas reconnues en bas âge, elles ne le seront pas davantage à l'âge adulte s'il y a une détérioration de ces mêmes blessures-là.
Parce que je regardais le suspect dans cette affaire, son nom c'est Daniel Robitaille, 67 ans. Lui a fait face à 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions pour son implication dans l'accident qui a blessé 2 enfants. Il n'en est pas à son premier rodéo avec la justice. Il semble mettre ça pratiquement sur le dos de la vie là, plutôt que sur son propre dos à lui. Il est assez désintéressé par la cause. Il serait pas mal plus intéressé par sa prise de médicaments. Le gars a de l'air à prendre ça à la légère. Puis moi, je suis de tout cœur avec cette famille-là de Beauport qui ont vu le sort de ses 2 enfants être changé, être marqué à vie, Maître Bellemare, le traumatisé crânien. Il va falloir qu'il travaille extrêmement fort là, pour revenir où est-ce qu'il était au départ. Là.
Oui, puis il n'y a pas juste les traumatismes crâniens, Yannick, là, c'est les dommages au cerveau. C'est quand le cerveau bouge dans l'accident, on appelle ça communément une commotion cérébrale. Donc, c'est des dommages qui sont de type maux de tête, troubles de concentration, troubles d'attention, changement de comportement, troubles affectifs, tu sais, mèche courte, colère, tu sais, impatient, vers ses mots. Ça, c'est cérébral, c'est la commotion. Mais ce qui peut jouer aussi, c'est tous les troubles psychologiques qui ne sont pas en lien avec le cerveau, mais en lien avec les événements qu'ils ont vécu, les images d'horreur, les cauchemars. Ça, c'est un trouble psychologique qui s'ajoute à la commotion. C'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'il soit vraiment suivi de façon très intense. Mais notre coco qui a causé l'accident, lui-là, là, puis qui est accusé actuellement d'un acte criminel grave sur la route, je ne sais pas si c'est conduite dangereuse ou négligence criminelle, mais en tout cas, il y a très certainement des accusations. Et c'est ça, c'est lui qui disait au juge lors de sa comparution, « Je ne veux pas d'affaires ici, comment ça se fait que je suis ici, puis etc. » Puis il banalisait véritablement son geste au maximum. Il faut quand même comprendre qu'il y a une présomption d'innocence, il n'est pas encore condamné, mais on verra bien ce qui va arriver de lui. Mais de toute façon, à cause de notre régime de no fault au Québec, depuis 1978, tu le sais, là, on en a parlé souvent, les criminels, les mauvais conducteurs, les dangereux, ils sont à l'abri de toute poursuite de la part des victimes et de la SAC aussi. Et même ce gars-là qui est en prison, là, s'il a été blessé dans l'accident, ou bien qu'il est en dépression, ou bien qu'il est blessé parce que ça a cogné solide, il peut être indemnisé sur la même base que ses propres victimes.
C'est 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions.
Oui, c'est ça. Alors, il va s'en sortir à quoi? Moi, j'ai hâte de voir éventuellement le jugement, même s'il plaide coupable, c'est quoi les condamnations? Parce que souvent, quand on voit dans l'actualité des accidents comme ça, on est complètement révolté, puis on se dit, hey, ce gars-là, il faudrait qu'il prenne 15 ans, tu sais, ça n'a pas de bon sens, etc. Tu penses aux enfants, puis tout ça. Mais moi, j'y suis les dossiers parce que ces cas-là, je les vois dans mon bureau souvent. Ce n'est pas le cas de ces deux jeunes-là, mais éventuellement, ça va peut-être être le cas parce qu'en assurance automobile, on est très, très reconnu chez Bellemare Avocat. Nous autres, on les suit, puis on les voit, les condamnations au bout de la ligne, puis on s'aperçoit que c'est loin d'être ce qu'on avait anticipé au départ. Nos tribunaux sont assez cléments au niveau de la justice criminelle au Québec dans à peu près n'importe quel dossier. On ne peut pas dire au Québec qu'on a une tradition de sévérité au niveau de la justice criminelle. On est plutôt porté à considérer que c'est des accidents isolés, que c'est des perspectives de réadaptation, que ci, que ça. On verra bien le résultat, mais on n'est pas en Alberta, on n'est pas en Ontario, là où on a statistiquement des peines plus sévères qu'au Québec. Si c'est le même code criminel.
Ouais, est-ce qu'il peut y avoir des recours? Puis je vous pose la question là, à froid comme ça, je n'ai pas réfléchi, mais les deux petits gars revenaient à pied de l'école primaire aux 80 lorsqu'ils ont été percutés par l'un des deux véhicules qui avait été impliqué dans une collision. C'est survenu à l'angle du boulevard des Chutes et de la rue Francheville. C'est un endroit qui est très, très, très emprunté par les jeunes étudiants. Est-ce qu'il peut y avoir des recours contre la ville pour avoir mal protégé des endroits qui sont très, très fréquentés?
Non. Il n'y a pas de recours contre le gars qui a frappé. Il n'y a pas de recours contre la ville. Au fond, la loi sur l'assurance automobile prévoit, et ça depuis le 1er mars 1978, ça n'a jamais changé, qu'il n'y a aucun recours devant un quelconque tribunal suite à un accident de la route de la part des victimes. Et moi, j'ai eu des cas, là, que tu sois une municipalité qui a mal protégé l'endroit, que ce soit un mécanicien qui a mal boulonné la roue ou la transmission, que ce soit un fabricant automobile qui est en l'erreur parce qu'il y a un sac gonflable qui t'a pété à pleine face, que ce soit un nid de poule, la ville, le ministère des Transports, qui cause un dommage corporel ou un décès, il n'y en a pas de recours. Et ça a été testé, je vais te dire, là, depuis 47 ans que cette loi-là existe. Ça a été testé aller-retour dans toutes sortes de contextes. Moi, j'ai participé à des recours civils qui n'ont pas réussi, même contre des fabricants automobiles, des mécaniciens, des vendeurs et des municipalités, évidemment. Fait que, à partir du moment où les villes ne sont plus responsables des accidents de la route, et des dommages corporels ou des décès qui en découlent, qu'est-ce qui te reste comme incitatif pour bien assurer la sécurité du réseau routier? C'est ça, moi, que je trouve déplorable, parce qu'on voit que les budgets baissent. À partir du moment où tu sais qu'il n'y a pas de poursuite civile, même si tu es en boisson, même si la ville est responsable, qu'est-ce qui reste comme incitatif? Tu sais, on fait beaucoup de prévention au Québec. On dit tout le temps, il ne faut pas conduire en état d'ébriété, il ne faut pas conduire fatigué, faut pas, la sécurité avant toute chose, on se gargarise de ça, mais en quelque part, on prend pas nécessairement les moyens, parce que s'il y avait des recours civils, les villes étaient susceptibles d'être poursuivies, comme dans ce cas-ci, donc, mettons, là, les parents disent, écoute, mes enfants venaient de l'école, il n'y a pas d'indication, donc il y a une part de responsabilité qui relève de la ville, bien là, la ville prendrait ça au sérieux, puis il dirait, bien, on va prendre des moyens pour assurer la sécurité des lieux davantage, puis s'ils sont condamnés, encore pire. Mais il n'y en a pas de recours. Fait que, il s'en fout. Tu sais, dans le fond, la sécurité, on en parle, mais ça ne veut pas dire qu'on prend véritablement des moyens pour assurer la sécurité. Puis je me souviens, à Montréal, il y a une petite Ukrainienne là, qui a été tuée là, il y a quelques années. Là. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, sur le bord de la rue.
Ouais. Devant l'école, pour dire une petite fille de 7 ans qui a été frappée par un gars, un parent là, qui s'en venait avec son gros char. Il n'a pas fait son stop, je ne sais pas trop. En tout cas, il y avait une faute là-dedans, évidente. Et là, la ministre des Transports, qui était Geneviève Guilbeault à l'époque, il y a quelques années, a fait un point de presse pour dire « on va prendre des mesures de sécurité, on va assurer le respect des vitesses maximales dans le secteur, on va mettre ci, on va mettre ça ». Oui, mais le gars, lui, qui a frappé et qui a tué la petite fille, là, il est clair de tout. Là. Il n'y a pas de… Non, c'est ça qui me choque, c'est que non seulement les conducteurs… même s'il y a des erreurs graves qui sont faites au volant, ne sont pas incommodés, mais en plus de ça, ils sont indemnisés. Ils sont admissibles à toutes les indemnités, fait qu'ils viennent gruger une partie importante du budget d'indemnisation de la SAC, ce qui en donne moins aux vraies victimes.
Maître Bellemare, autre sujet, vous avez fait partie d'un gouvernement provincial, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Les dépenses de la nouvelle première ministre qui font énormément jaser ce temps-ci. Dans le dernier budget qui avait été annoncé, dernière mise à jour, Éric Girard avait laissé une enveloppe budgétaire de 250 millions de dollars pour que le futur premier ministre ou la future première ministre puisse travailler le temps d'aller jusqu'en élection. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec toutes les décisions de Christine Fréchette, elle dépense encore plus que le 250 millions qui lui avait été permis. Et Éric Girard, au début du mois de mai, avait averti le bureau de la première ministre en disant « Là, les Québécois s'attendent à ce qu'on fasse notre possible avec le budget qu'on se donne. Vous êtes en train de le dépasser. Les Québécois ne sont pas dupes. C'est un peu irresponsable. » Finalement, en fin de semaine, Éric Girard est sorti en disant « Ouais, on dépense plus qu'est-ce compté, mais on peut se le permettre parce qu'il y a des transferts du fédéral qui sont beaucoup mieux. Puis la crise avec le détroit d'Ormuz, c'est plusieurs semaines, donc le prix de l'essence est plus élevé, ce qui fait en sorte que les taxes provinciales rentrent beaucoup. Donc, en fin de semaine, Éric Girard avait dit « c'est plus que 250 millions qu'elle a dépensé, mais là, pour l'instant, c'est correct. » On est encore en train de se faire une campagne électorale avec l'argent des contribuables et on achète des électeurs avec cet argent-là.
Oui, parce que M. Girard, écoute, les deux gardiens des finances publiques là, sur qui les Québécois doivent pouvoir compter, c'est le Conseil du Trésor et les finances. Si le Conseil du Trésor ne fait pas sa job, je pense que Mme Duranceau fait un assez bon travail de ce côté-là. On sent qu'elle a le contrôle, qu'elle a la main forte là, sur les dépenses.
Ouais.
Et les finances, avec M. Girard qui a dit « t'as tant d'argent, Christine, pour faire plaire aux Québécois, là, pour arriver avec des nouvelles mesures ». Et là, il y a un courriel qui est sorti. Je ne sais pas qui c'est qui a envoyé le courriel.
C'est Éric Girard.
Non, je sais, mais il n'a pas envoyé ça aux médias. Il y a quelqu'un ça a coulé en quelque part, puis il y a quelqu'un qui a eu le courriel.
Ah.
Parce que sinon, il aurait pu dire « j'ai jamais dit ça ». Mais là, il y a un courriel qui vient de lui qui dit « hey, Christine, tu dépenses trop ». Mais là, on est au mois de mai. On est au mois de mai. Puis l'élection a lieu au mois d'octobre. Alors, le mois de mai, c'est le cinquième mois, puis le mois d'octobre, c'est le dixième mois. Il reste encore cinq mois à faire. Puis déjà, le ministre des Finances dit « Christine, tu dépenses trop ». Là, elle va lever le pied sur la TPS, puis certaines taxes sur certains produits de consommation courante.
Remboursement des droits de mutation immobilière, ou encore ce qu'on appelle la fameuse taxe de bienvenue pour les nouveaux acheteurs. Ça, c'est 140 millions. Ensuite, une baisse d'impôts pour les PME, 50 millions. Donc, on est rendu à 190 millions de dollars. Et là, s'ajoute ce qui vient d'être annoncé pour ce qui est des épiceries. Là. Donc, on va baisser, on va enlever la taxe sur certains produits dans les épiceries. Ça, on parle d'une mesure de 100 millions de dollars. Et il y a d'autres annonces qui s'en viennent. Dans les 100 premiers jours de Christine Fréchette, elle a des annonces qu'elle doit faire à chaque jour. Fait que là, la facture continue de monter. Donc, elle achète des votes avec l'argent qu'on lui confie. C'est un peu gênant.
Oui, puis Mme Fréchette a été associée beaucoup à certains fiascos, là, Norvold, puis tout ça, là, dans son gouvernement, parce que c'est une femme qui est axée beaucoup sur l'économie. C'est elle qui a remplacé Fitzgibbon au niveau du super ministère de l'économie. Donc, on se dit, en principe, dans le gouvernement, s'il y a quelqu'un qui sait compter, c'est bien elle. Alors, elle est élue à la tête du parti, à la tête du gouvernement du Québec, à partir d'un concept économique. Hein? On ne viendra pas dire que c'est ses grandes compétences au plan juridique, au plan de la santé, au plan de l'éducation qui l'ont mené là, c'est surtout la question de l'économie. Et là, on voit ça que finalement, elle dépense sans compter. Et sais-tu quoi? Ça me fait penser en 2003, moi, quand j'étais candidat, je me souviens, Bernard Landry était largement favori dans les sondages au mois de janvier 2003. Finalement, l'élection a lieu au mois d'avril. Mais Landry, quand il a vu qu'il glissait dans les sondages tranquillement, Bernard Landry avait promis de payer des vacances. Tu es peut-être trop jeune pour te souvenir de ça, là. Mais écoute, il y a 23 ans, le Parti québécois, après 9 ans au pouvoir, parce qu'il avait été élu en 94 avec Jacques Parizeau, en septembre 94, promettait des vacances. Il voulait, Bernard Landry avait dit, on va payer des vacances aux Québécois. Pas des jokes, là. Mm-hmm. On était rendu dans les vacances. Alors, il y avait des budgets dans l'espace public qui était prévu pour payer des vacances. Il avait fait rire de lui. Les gens s'étaient dit, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'on peut avoir un gouvernement qui va payer des vacances? Ça me fait un petit peu penser à ça, Mme Fréchette. Je regarde ça, là, des gouvernements en fin de régime, des sondages très bas. On dirait qu'ils n'ont pas de rien à nous promettre autre que de l'argent.
Mais ça a l'air à marcher, Maître Bellemare, puisqu'elle est en train de monter dans les sondages, Christine Fréchette. Là.
Oui, bien là, peut-être qu'avec ça, elle va arrêter de monter. Là. Je ne sais pas, là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point les Québécois sont naïfs et vont acheter ce genre de promesses-là. je me souviens de Justin Trudeau. Tu te souviens avec Mme Freeman qui avait fait son annonce?
Oui.
Autour des fêtes, qui disait ben les sapins de Noël, les boules de Noël, les bûches de Noël, on va baisser les taxes là-dessus. Il n'y aura plus de taxes là-dessus pour acheter vos bûches puis vos gâteaux de Noël, puis etc. Avec Mme Freeman dans une cuisine, là, c'était assez niaiseux. Tu sais. Mme Freeman a démissionné quelques semaines plus tard, mais c'était du vaudeville. Tu sais. Alors, on a l'impression que quand les gouvernements sont en fin de régime, quand ça va mal, même si les sondages sont meilleurs pour Mme Fréchette qu'avec M. Legault, je le conçois, il demeure qu'ils sont quand même bas. Là. Il demeure que si on se fie aux prévisions 125, là, je ne sais pas, je pense qu'ils ont 2-3 comtés au Québec. Là. Alors, ça sent la panique. Moi, je trouve que ça sent la panique. Plutôt que de nous arriver et de dire on va gérer de façon plus rigoureuse les budgets de l'État, on va diminuer vos impôts, on va diminuer les dépenses publiques, il arrive avec des dépenses additionnelles, comme s'il n'y avait pas d'autre façon de gouverner que de dépenser. Alors, moi, je pense que dans la région de Québec, ça donne du gaz à M. Duhaime, puis dans la région de Montréal, ça donne du gaz à M. Milliard.
Aux libéraux. Puis M. Milliard, il va falloir qu'il commence à montrer que c'est lui qui est clé de la voiture. Là. Je répète que dans un podcast de Marceau Soir, il m'avait dit qu'à partir du moment où c'est lui qui devenait chef du Parti libéral du Québec, il mettrait le Parti libéral du Québec à sa main. Moi, ce que je vois et ce que je constate actuellement, puis c'est pas moi qui tiens le fanal à l'intérieur de ce parti-là, mais j'ai l'impression que c'est le Parti libéral du Québec qui gouverne Charles Milliard plus que Charles Milliard qui gouverne le Parti libéral du Québec. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais il va falloir qu'il montre des dents un peu parce que des sourires, là, tout le temps, c'est pas suffisant. Là.
C'est ça. Ben oui, c'est pas comme Jimmy Carter, parce que Jimmy Carter avait été élu avec son sourire. Hein? C'était le premier critère dans les sondages. Les Américains disaient, moi, je vote pour Jimmy Carter à la présidence des États-Unis parce qu'il avait un beau sourire. Alors ici, ça peut marcher un certain temps, c'est sûr. Je me souviens, Mme Plante, la mairesse de Montréal, qui a maintenant quitté. Valérie Plante, elle était passée à Tout le monde en parle en campagne électorale. Puis elle avait un grand sourire, puis elle faisait des jokes avec Guilla. Là. Puis tout le monde avait trouvé ça bien bon. Puis elle avait dit, mon Dieu, c'est donc bien rafraîchissant. Fait que M. Coderre, lui, qui riait pas souvent, il avait perdu son élection. C'est Mme Plante qui avait gagné. Alors, il reste que le sourire, c'est important, tu as raison, mais ça prend un peu de contenu à un moment donné. Et M. Milliard, c'est l'identité qui crée des problèmes. Les gens se souviennent de gouvernement Couillard qui n'était pas capable de mettre le pied à terre pour l'identité, les signes religieux, la langue française, puis qui n'était pas capable de dire on va protéger le français, puis on va prendre des mesures linguistiques, puis on va s'assurer de l'identité québécoise, etc. Il y avait de la misère avec ça, puis les gens se souviennent de ça. Puis c'est pour ça que tous ces comtés sont quasiment sur l'île de Montréal. Et là, avec son hésitation sur la clause dérogatoire, en disant bien là, je ne l'invoquerai probablement pas de façon préventive, il s'est fait ramener à l'ordre probablement par ses députés anglophones. Donc, il a reculé là-dessus. Après ça, les deux langues officielles. Tu sais, c'est sur la question culturelle, la question d'identité, la question du français.
Ouais.
M. Milliard, il est encore en déficit, à mon avis, dans l'opinion publique. Les Québécois, les francophones n'aiment pas ça. Ça paraît dans les sondages.
Hâte de voir la suite. Ce matin, grosse surprise pendant mon show du matin, Maître Bellemare, j'ai vu que Caroline Mulroney abandonnait le parti politique de Doug Ford. Elle démissionne carrément. Elle mentionne que c'est pour des raisons familiales. Je vous pose la question, est-ce que Pierre Poilievre commence à sentir la soupe chaude? Là? Est-ce qu'on est en train de préparer Caroline Mulroney à une campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada?
Bien, je pense que Mme Mulroney a toujours été prête. Elle a toujours été pressentie. Est-ce qu'il se prépare quelque chose à Ottawa du côté des conservateurs? Je ne le sais pas. À un moment donné, j'avais eu vent du fait qu'il y avait peut-être des députés du Québec qui avaient l'intention de quitter le bateau. passer du côté libéral ou passer du côté indépendant. Ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas. On est comme... il ne se passe pas grand-chose du côté d'Ottawa, mais c'est sûr que M. Carney est très, très, très populaire, même au Québec. Et puis...
il commence à y avoir de la bisbille au niveau environnemental. On parlerait d'une quinzaine de députés qui sont franchement insatisfaits du Parti libéral. Donc, si jamais il y a une quinzaine de députés qui claquent la porte au Parti libéral, on reviendrait dans un gouvernement minoritaire, ce qui est assez particulier. Mais je pense pas que les gens au Canada, les conservateurs au Canada, puissent endurer encore un Pierre Poilievre jusqu'aux prochaines élections. Pas sûr qu'ils se rendent là, Maître Bellemare, très honnêtement.
Moi, ce qu'on m'avait... encore trois ans, trois ans.
Ce qu'on m'avait parlé de la famille Mulroney, c'est que, il y a Caroline aussi qui serait franchement intéressant comme candidature. Mais de l'autre côté, elle a un frère que je connais un peu moins, Mark Mulroney, qui, lui, s'affairerait en coulisses à tester des appuis depuis plusieurs mois, à savoir, c'est-tu le temps d'y aller, c'est-tu le temps de pousser, qui pourrait me backer dans mon ascension au Parti conservateur du Canada. Donc, on aurait deux Mulroney qui pourraient se disputer la chefferie du Parti conservateur du Canada. Ce serait complètement fou, ce serait du jamais vu, là, un frère et une sœur qui se battent pour la chefferie.
Oui, puis il y a Ben aussi qui a fait de la télé, qui est très connu.
Mais Ben, ça semble pas lui ça semble pas lui tenter la politique là, à tous les jours. Là. Je pense plus que lui veut rester un simple chroniqueur. Mais les deux autres, j'ai l'impression qu'ils ont de grandes aspirations pour l'instant. Je peux peut-être me tromper. Peut-être qu'on en aura trois finalement.
Oui, c'est ça. Parce que l'espace centre-droite est assez bien occupé par M. Carney. Il y a beaucoup de mesures. Tu sais, tu dis, oui, les environnementalistes ne sont pas contents, je comprends, mais Stephen Guilbeault est quand même resté dans le caucus libéral fédéral. Il est insatisfait, mais il se dit, j'ai plus de voix, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus d'influence au sein d'un gouvernement, au sein d'un parti. Le Parti libéral étant, je pense, la seule et unique possibilité pour lui, parce que le NPD est à l'article de la mort. Ils ont un chef qui ne parle pas français, qui n'est pas connu. M. Singh a été battu. Boulris s'est rendu à Québec solidaire, le seul député québécois du NPD. Fait que ça ne va pas bien du côté NPD. Ils ne sont pas conservateurs. Fait que qu'est-ce qui reste si ce n'est pas le Parti libéral? Fait que, ou bien ils démissionnent et ils s'en vont, ou bien ils restent et ils chialent à l'intérieur de la machine en se disant, si on est 10-15, on va peut-être pouvoir influencer les politiques. Et M. Carney, il y a un référendum à gagner dans l'Ouest, avec l'Alberta. Il s'entend très bien avec Daniel Smith. Il sait qu'il faut qu'il arrive avec des bonnes nouvelles pour que le référendum soit perdant du côté de la séparation de l'Alberta.
Donc, la question qu'on pose, premièrement, c'est voulez-vous un référendum, oui ou non, dans une question qui se noie en elle-même. Là, j'ai l'impression que les gens vont être mêlés, puis pas pire.
Mais moi, ce qui m'intéresse du côté de l'Alberta, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment pas comme le Québec, là. On n'a pas idée de ce qui se passe en Alberta, mais on n'est vraiment pas dans le même pays. Les Albertains, je ne sais pas dans quelle mesure les séparatistes albertains sont pro-annexion aux États-Unis. On ne leur pose pas la question. Ça devrait être la deuxième question. Êtes-vous favorable à ce qu'on annexe l'Alberta aux États-Unis? Parce que je vais te dire une affaire. Pierre Poilievre promettait d'abolir CBC. Pourquoi? Parce qu'il y a 95 % des produits culturels consommés en Alberta qui sont américains. Les Anglais de l'Alberta n'écoutent pas CBC, ils écoutent les chaînes américaines, les soaps américains, les nouvelles américaines. Et puis, ils sont, tu sais, du côté économique, le pétrole, c'est pas pour rien qu'on a les Oilers d'Edmonton et qu'on a les Oilers de Houston dans la NFL. Tu sais, c'est parce qu'il y a... c'est le pétrole qui mène le pays, qui mène la province. Et on verra bien ce qui va arriver, mais il reste que M. Carney et Mme Smith s'entendent assez bien. Ils font des beaux points de presse. Ils sont tous les deux très souriants. Puis c'est sûr que Carney sait que s'il veut avoir des gros projets énergétiques, qui vont assurer l'indépendance du Canada dans des grands projets économiques par rapport aux États-Unis qui ne sont plus des alliés pour nous et qui ne le seront pas avant, on ne sait pas quand.
Ouais.
Il y a besoin d'avoir des projets énergétiques importants dans l'Ouest du Canada. Puis il a compris ça. Puis écoute, c'est ce qui fait qu'il y a un certain succès partout dans le pays. Alors, c'est beau pas être content, il reste que les sondages sont bons. Puis même dans leur comté, les députés insatisfaits comme Stephen Guilbeault s'aperçoivent que Carney a la cote.
Je regarde la question qui est soumise aux Albertains, qui va être soumise aux Albertains en octobre 2026. Donc, ça s'en vient quand même assez rapidement, là, moins de 5 mois. Puis là, le fédéral est en train d'analyser à savoir si c'est bel et bien une bonne question puis est-ce qu'on peut la modifier. Mais ce que Daniel Smith a soumis comme question aux Albertains, c'est « L'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement de l'Alberta doit-il entamer un processus juridique prévu par la Constitution canadienne pour tenir un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit se séparer du Canada?
» Oui, mais ça ressemble à la question du 20 mai 1980.
Mais on répond premier, quoi, là? C'est, ça aurait été simple.
Le premier référendum, l'évêque disait on doit avoir une explication sur l'association,
ouais.
Parce que c'était la souveraineté association. Premier référendum, si ça passait, il y avait un deuxième référendum pour approuver la souveraineté association, le traité avec le reste du Canada, etc. Bon, c'est des questions interminables, mais les gens comprennent finalement que si tu votes « yes », ça veut dire que t'es écœuré d'être dans le Canada. Puis si tu votes « no », ça veut dire que t'es content d'être dans le Canada. C'est tout, là.
Mais
les gens vont bien comprendre que le camp du « oui » et le camp du « non », il va y avoir probablement un leader du « oui » et un leader du « non ». Puis un peu comme au Québec, ils ont une loi référendaire. On a une loi référendaire au Québec,
oui. Ouais.
Qui a été adopté par Robert Burns, qui a été le premier ministre des affaires électorales dans le gouvernement de l'évêque, qui avait fait voter la loi 2 sur les consultations populaires. Et en Alberta, j'imagine qu'ils ont un système aussi électoral, parce qu'un référendum, il faut qu'il y ait deux camps, il ne faut pas qu'il y en ait 10, puis il faut qu'il y ait une question avec une réponse claire. Mais tu as raison, la question est un peu ambiguë, mais je pense que tout le monde peut comprendre. Puis à un moment donné, quand ça part en campagne, c'est yes ou c'est no, puis on ne s'occupe plus trop de savoir c'est quoi le texte.
Je pense qu'au Québec, il y a à peu près 40 % d'analphabètes, là, dont un certain pourcentage qui demeure fonctionnel parmi ces analphabètes-là. Je sais, j'ai pas les chiffres pour l'Alberta, mais je trouve que les questions sont longues. T'sais, je répète, là, l'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement de l'Alberta doit-il entamer le processus juridique prévu par la Constitution canadienne pour tenir un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit se séparer du Canada? Ça aurait pu être « Voulez-vous un référendum provincial » sur la question de savoir si l'Alberta doit se séparer du Canada, oui ou non, ça aurait été pas mal plus simple. C'est peut-être moi qui est trop cave, finalement, puis tout le monde autour de moi...
d'accord avec la séparation de l'Alberta pour que l'Alberta devienne un pays. En réalité, c'est ça.
On fait tout pour mélanger le monde.
Qu'elle soit une société qui possède tous les pouvoirs. Mais c'est ça, ça part d'une bonne intention et avec un texte concis. À un moment donné, écoute, c'est bien hein, que ça, ces questions-là passent par le Conseil des ministres, puis là, il y a un projet, puis là, il y a une rature, puis là, on devrait cirer ça, on devrait mettre ça. Il faut absolument parler d'ici, il faut absolument parler de ça. Alors, finalement, ils consultent pour savoir, voulez-vous un référendum? C'est un peu ça la question.
Oui, c'est ça. Après la pause, on jase avec Maître Bellemare. On veut savoir, Maître Bellemare, c'est la question qui est sur toutes les lèvres présentement. Est-ce qu'on peut se promener seins nus en public quand on est une femme au Québec? Dites-moi pas la réponse. On va attendre tout de suite après la pause. Je rappelle que je suis avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca, spécialiste de la SAC, d'IVAC et de la CNSST. On revient.
Marceau, le soir. Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Si vous voulez communiquer votre appréciation pour la toune de Max,
soyez original dans votre négativité.
Oh!
On va battre les Hurricanes!
Finalement, on a trouvé la toune faire parler terroriste à Guantanamo.
La toune à Max me donne envie d'être Bruce Willis.
Non, tu reproches à Slavkovski d'être mêlé sa glace un peu perdue, là. C'est toi dans ce tune-là, là.
Pis moi, je m'aime pas commotionné. Denis, il y a quelqu'un qui demande quand je finis mon stage. La plus grosse vague de haine depuis le départ d'André Arthur.
J'adore Arnaud qui dit « J'arrête ça, Max. Jeff est encore fragile. » Ça a l'air que même les jeunes à l'école des malentendants ont pleuré.
Stop de boulevard 102.1. Lundi au jeudi, 7h55.
OK, vous êtes malade. Vous êtes malade.
Ce segment d'émission, présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
Le nouveau EV5, c'est votre VUS électrique à moins de 46 000 $. Fini les factures d'essence. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Ce segment d'émission, présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
À moins de 45 000 $, le Sportage hybride, c'est le meilleur des deux mondes quand on a un VUS. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Le 31 mai prochain, Boulevard 102.1 et la Société Alzheimer de Québec vous invitent en grand nombre à la Maison O'Neill pour participer à la marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine. Dès 10 heures, marchez dans des sentiers aménagés au cœur d'un domaine patrimonial et faites la différence pour la cause. Les dons amassés sont essentiels pour financer les services offerts par l'organisation. L'escouade sera sur place avec moi-même, Nathan Meilleur, pour encourager les marcheurs. Inscrivez-vous au SociétéAlzheimerDeQuébec.com.
Le beau temps revient enfin. Allez en profiter et laissez-nous popoter. Bouffe et compagnie, c'est votre solution délicieuse. Bouffe et compagnie, authentique et gourmand depuis plus de 10 ans. Bouffeetcompagnie.com.
Vous cherchez une solution simple pour gérer vos véhicules commerciaux? Avec le service Ford Pro chez Lévy Ford, on s'occupe de tout. Du choix du véhicule au financement jusqu'à l'entretien. Moins de gestion, plus d'efficacité. Passez nous voir dès aujourd'hui. Lévy Ford, les forts de Lévy.
Préautorisation, renouvellement ou refinancement hypothécaire? Dans le marché actuel, un bon choix, ça se prépare. Avec Axia, on évalue vos options pour que vous avanciez avec confiance. Avant de signer, visitez axiahypothèque.ca. Axia, la valeur d'un bon choix.
Attendre des semaines pour avoir un rendez-vous pour l'entretien de son véhicule électrique, c'est pas la situation parfaite. Passez donc chez Desharnais. Pour les véhicules à moteur, hybride ou électrique, Desharnais, c'est juste parfait.
Le 1er juillet approche. Et vous n'avez toujours pas trouvé de logement? Vous avez cherché partout et vous ne savez plus quoi faire? Vous pouvez compter sur les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation. Ils sont là pour vous accompagner dans vos recherches. Contactez-les sans tarder. Ce service est gratuit. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Déjà au volant d'une Volkswagen? C'est le moment d'en profiter. Obtenez 1% de rabais sur votre prochaine location chez Laval Volkswagen. Nouveau modèle, nouvelle techno, même confiance, à meilleur prix. Passez nous voir dès aujourd'hui. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Besoin de cèdre pour vos projets extérieurs? Le cèdre de l'Ouest et le cèdre du Québec sont en vedette chez Limaco. Particulier ou entrepreneur, Limaco a un vaste choix de cèdres à très bon prix. Limaco, spécialiste en vente de bois depuis plus de 25 ans. Limaco.ca.
Arrêtez ce que vous faites et saisissez une rare opportunité. Le rassemblement des concessionnaires Nissan de Québec et Lévis dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi seulement. Voyez de près nos joies vedettes comme le flamboyant Kicks et comparez-le avec ses concurrents. Mettez-nous au défi. Vous verrez qu'il domine autant au niveau de la performance que du prix. En location sur 60 mois à partir de seulement 88 $ par semaine. Faites vite, ça finit mercredi. Profitez-en. Détails chez vos concessionnaires Nissan de Québec et Lévis.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Les lundis dans Marceau Soir, c'est les lundis avec Maître Marc Bellemare, qui est mon co-animateur depuis des années et des années. Puis on parle de dossiers qui touchent l'actualité. On parle des trucs qui touchent le droit, bien entendu. Maître Bellemare, si vous voulez le rejoindre pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, c'est bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, la question qui tue. Ouais, tout le monde en parle ce soir. Est-ce que c'est possible pour une femme, en 2026, au Québec, qu'elle soit à Montréal, Québec, Drummondville, Trois-Rivières, Saguenay, Côte-Nord, Gaspésie, est-ce que c'est possible pour cette dite femme de se promener seins nus en public, Maître Bellemare?
Je dirais d'abord que ta question est discriminatoire. Parce que les hommes aussi ont des seins.
Ouais, mais ça, eux autres, je veux pas y voir.
Tu prends pour acquis que les hommes peuvent se promener seins nus et que ça dérange personne. Alors, j'ai trouvé la réponse sur le site d'Éducaloi.
Oui.
Éducaloi, c'est un site juridique.
Oui.
Un site juridique très intéressant. Puis je me suis dit, tiens, je vais envoyer ça à Yannick, c'est sûr que ça va l'intéresser. J'avais comme ce pressentiment. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble.
Oui.
Je me disais, lui, ça va l'intéresser. Alors, ce qu'on dit sur le site, c'est qu'il peut être tentant de retirer quelques vêtements avec l'été et la chaleur.
Oui.
Au Québec et au Canada, vous avez le droit d'être sain ou torse nu dans les espaces publics. Vous avez ce droit, peu importe votre sexe et votre genre. Vérifiez tout de même les limites et sachez que vous avez des recours si vos droits ne sont pas respectés. Alors, c'est un droit qui a été confirmé par les tribunaux en 1996 et en 2000, par les tribunaux supérieurs, qui fait que ce n'est pas interdit par le code criminel. Alors, tout ce qui n'est pas interdit est permis, de sorte que tu peux te promener, homme ou femme,
ouais,
seins nus en public, pour marcher sur le trottoir, faire du vélo, participer à une manifestation, vous baigner à la plage, au parc aquatique ou à la piscine, vous faire bronzer dans un parc, dans votre cour ou sur votre balcon.
Okay.
Mais... vous avez aussi le droit d'allaiter votre enfant dans tous les espaces publics. Ça, je le savais.
Oui.
Parce que l'allaitement, c'est quand même important.
L'allaitement, les espaces privés aussi, vous avez le droit.
Oui. Mais j'ai appris, comme toi, que c'était possible. J'ai toujours pensé que le code criminel l'interdisait. Mais le code criminel l'interdit sur la base de gestes indécents. Bon, ça veut dire, c'est une question de contexte. Par exemple, tu te présentes dans une église à l'occasion des funérailles où il y a une moyenne d'âge de 72 ans, seins nus, bien là, peut-être que tu vas te faire accuser d'avoir eu un comportement indécent. Ça dépend de l'endroit où tu es, ça dépend des gens à qui tu t'exposes, mais le fait, par exemple, de se caresser le corps, les seins nus, ou de se masturber, évidemment, c'est un geste indécent, mais il n'est pas illégal de se promener seins nus en public dans des espaces partagés par l'ensemble de la population.
OK. Je vous pose une question comme ça. Est-ce qu'une épicerie, un restaurant, c'est un espace public?
Oui. Un espace public, c'est un... oui, absolument. Oui.
Bien, moi, à l'épicerie, Maître Bellemare...
Là, il peut y avoir des règles à l'intérieur de l'épicerie. Peut y avoir des règles. Comme on peut empêcher quelqu'un d'être turbulent, on peut empêcher... Bien, le restaurant peut dire, non, tu ne rentres pas seins nus ici. C'est possible. Je pense que dans les espaces privés, parce que c'est public, mais ça appartient à quelqu'un de privé. Mais on donne des exemples, surtout en plein air. Là. Le trottoir, le vélo, les manifestations, la plage et dans votre cour ou votre balcon. En notant que c'est un peu ténu. Tu as le droit d'allaiter ton enfant, même dans des endroits privés, comme dans des centres d'achat, au cinéma, au travail, au tribunal. La question est bonne. Et si tu te présentes seins nus, une femme se présente seins nus dans un cinéma ou dans un restaurant, ça se peut que le propriétaire décide d'interdire l'accès. Mais pour l'exposition, peut-être qu'il pourrait le faire.
Je souhaite bonne chance au propriétaire parce que souvent, ce genre de coup qui peut être un coup d'État, moi, si j'étais propriétaire, j'aurais un peu de difficulté à réagir. Mais comme j'ai un peu de dictature en moi, Maître Bellemare, un chien Mira qui rentre dans une épicerie, j'ai aucun problème avec ça, OK? Mais un chien qui rentre dans une épicerie, qui n'est pas un chien Mira, qui n'est pas un chien d'assistance, ou qui rentre dans un restaurant, j'ai de la misère avec ça, bien que je suis un ami des animaux. Un chien sur une terrasse, pas de problème. Un chien dans un restaurant à l'intérieur... j'ai de la misère. Si je vois un homme torse nu à mon épicerie dans la section des fruits et des légumes, je veux pas avoir ton poêle d'aisselle dans ma bouffe. Mets-toi un T-shirt. C'est-tu non, moi qui est trop borné, moi?
Moi, je trouve qu'un gars qui se promène en bédaine sur la rue Sainte-Catherine, même s'il fait chaud,
ouais,
en Montréal ou sur la Grande Allée à Québec, moi, ça m'écoeure.
Bon, on est de la même école. On est de la même école. Moi, c'est
ça m'écoeure. Il y a une question de décence, puis il y a une question de respect. Tu n'es pas dans ta cour, tu n'es pas dans la maison chez vous, tu n'es pas sur le bord de la piscine. Et même dans des stations balnéaires, même en Floride, à Cancun, en Californie, on n'aime pas ça quand quelqu'un se promène en bédaine, puis en petite sandale, puis il rentre dans un restaurant, puis il fait comme s'il était chez lui. Ça dérange, mais ce n'est pas illégal. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on peut se promener seins nus, homme ou femme, dans un espace public extérieur? Très certainement. Est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est interdit? Non. Ce n'est pas interdit par le Code criminel canadien. Alors, les tribunaux ont reconnu que c'était possible de le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va plaire aux autres.
Bien, ce n'est pas tout le temps des défilés de Victoria's Secret, là, si vous... si vous voyez ce que ben, je veux ça. Dire.
Il y en a qui vont peut-être choisir de ne pas s'exposer parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'atouts.
Mais
parce que souvent, je sais que dans certaines manifestations, il y a des femmes, des fois, qui vont provoquer, qui vont se promener seins nus puis qui vont essayer de provoquer ou de déranger. Si le fait d'être seins nus est associé à, je ne sais pas moi, une perturbation de l'ordre public, bloquer le trafic dans une rue, empêcher des gens de s'exprimer. Là, tu viens empiéter sur un droit qui appartient à quelqu'un, puis tu viens empêcher quelqu'un d'exercer un droit fondamental. Mais le simple fait de te promener seins nus, c'est une possibilité et il n'y a pas d'empêchement parce que ce n'est pas interdit par le Code criminel, en autant que ce n'est pas indécent. Le simple fait de se promener seins nus n'est pas indécent, mais si tu en fais un usage qui amène à l'indécence à cause du contexte, à cause des gens à qui tu t'exposes et de la façon dont tu t'exposes de façon beaucoup plus explicite et provocante, ça peut peut-être empiéter sur certains droits.
Maître Bellemare, on revient au temps de la pandémie parce qu'il y a encore des choses qui restent à régler. C'est un juge qui a soulevé le caractère violent de la vaccination pour un fonctionnaire. Un employé de l'État qui était sur une base militaire qui a raconté au tribunal administratif du travail avoir vécu une grande détresse en apprenant que les fonctionnaires fédéraux devaient absolument être vaccinés contre la COVID. Qu'est-ce qui fait que ça s'est ramassé devant le tribunal administratif du travail?
Mais ça a constitué un accident de travail, c'est-à-dire que la personne qui a été vaccinée contre son gré a vécu un traumatisme. Alors, c'est comme... au fond, le tribunal administratif du travail qui entend des causes d'accident de travail est habitué d'avoir des déchirures de l'épaule, des hernies discales, des entorses lombaires, des entorses cervicales, des déchirures du ménisque au niveau des genoux. En fait, c'est beaucoup de mécanique et beaucoup d'orthopédie. Mais il y a aussi des cas psychiatriques. Un vol de banque, par exemple, une serveuse dans un restaurant qui se fait poussailler ou insulter ou menacé par un client, ça va être considéré comme un accident de travail. Une fille qui travaille au comptoir dans une banque ou dans une caisse populaire, qui est victime d'agression ou de propos diffamants ou de menaces ou de vol de banque, va être sur la CNSST. J'en ai vu quantité, des cas comme ça. Maintenant, dans ce cas-ci, le tribunal a considéré que compte tenu de ses croyances personnelles, l'individu qui avait été exposé à une vaccination qui ne lui convenait pas et qui a entraîné un trouble psychologique avait droit d'avoir des indemnités en vertu de la loi sur les accidents du travail. C'est comme un peu, faut mettre ça dans la catégorie un peu des cas d'harcèlement ou des cas de stresseurs psychologiques, d'employeurs qui menacent ou de clientèle qui menace et qui cause un trouble dépressif ou un stress post-traumatique ou un trouble anxieux. Et le tribunal l'a accepté. Je ne te dis pas que c'est courant. La plupart de ces causes-là sont rejetées, mais dans ce cas-ci, ça a été accepté. Ça dépend du juge, ça dépend de l'employeur, ça dépend de la crédibilité du travailleur, ça dépend de ce que les médecins ont noté. Il y a probablement des experts en psychiatrie qui ont noté qu'effectivement, cette situation-là avait provoqué un stress intense chez l'individu. C'était dans le cadre de son travail, à l'occasion de son travail, dans ses conditions de travail, et ça a constitué un accident de travail pour lequel, une lésion professionnelle pour laquelle il a le droit d'être indemnisé.
Ça fait une juridiction.
C'est une nouveauté. Moi, j'ai été surpris de lire ça, mais il y a toutes sortes de cas qui sont acceptés.
Ça fait une jurisprudence?
Oui, ça fait une jurisprudence, tout à fait. C'est un cas particulier. On appelle jurisprudence, finalement, un cas nouveau, quand c'est du droit nouveau, une décision qui s'écarte de la tendance habituelle et qui va confirmer le droit à l'indemnité. Alors, tant mieux pour cet individu-là, mais en même temps, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été vaccinés et qui étaient plus ou moins consentants ont été victimes de lésions professionnelles. Tout dépend des convictions de la personne, tout dépend de la preuve. Il faut que ça soit très clair, que ce soit en lien avec ça. Si tu as des antécédents psychologiques, si ça fait 20 ans que tu es sur les antidépresseurs et que ça t'arrive, tu as moins de chances de le faire accepter parce que là, le juge va dire « Ouais, mais là, il y a peut-être un stresseur Mais compte tenu qu'il y avait déjà les antécédents, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est ce stresseur-là qui a causé la dépression plutôt que son état antérieur? Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la relation entre le trouble psychologique et le travail. Dans ce cas-ci, semble-t-il qu'il n'y en avait pas. Et c'est la raison pour laquelle le tribunal a donné raison à ce travailleur-là.
Maître Bellemare, je m'en vais écouter le hockey. Prédiction au Canadien de Montréal. 3-2, ça se termine en prolongation et ce sera Cole Caulfield qui la met dedans.
Hey, c'est bon, mais t'es bon dans tes prévisions. Franchement, tu m'impressionnes.
Oui.
T'es un petit peu trompé avec Buffalo sur le nombre de matchs, là.
Ouais.
Mais t'as toute mon admiration, mon cher, et je t'écoute religieusement quand t'as tes prédictions.
Ah, alors, ben moi aussi, là, je m'en vais écouter ça. Gagez pas un 2$, là. C'est beaucoup d'argent, là. Salut,
on voit le monde. OK, bravo. Tes gars, ils ont le droit de se coucher plus tard aujourd'hui.
D'accord. Passez une belle soirée. Merci.
Merci. Salut.
Au revoir. Bye bye. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes. Je vous souhaite aussi une bonne nuit, un bon match de hockey, puis on se reparle demain à la même heure. Salut. Bye bye.
Marceau, le soir. Une coupe, ça se gagne un match à la fois. Avec de l'intensité et des sacrifices. Comme à la radio, un show à la fois. Puis à Québec, la fièvre des séries, ça se vit aussi en ondes. Puis c'est à Boulevard 102.1 que ça se passe.
Ouais, parce qu'on n'est plus dans le passé. On fera pas bande à part. On est avec le reste du Québec. Dans la vieille capitale, on suit le hockey de nos glorieux. C'est pourquoi Boulevard 102.1 et Chaloux ont décidé de vous envoyer au match numéro 4 à Montréal le mercredi 27 mai. Vous retrouverez tous les détails du concours sur le blvd.fm. On fait le tirage de la paire de billets mardi 17h. Merci à notre fidèle partenaire Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts, de la micro d'exception à la bière de soif parfaite. Beauport, Saint-Émile et Saint-Quatre.
Boulevard 102.1.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Visitez deco-rampe.com.
Hey, saviez-vous que la place pour votre nouvelle voiture, c'est Lévis Subaru? En plus, ils viennent tout juste de déménager dans plus grand et plus moderne, au 5085 Christophe Colomb à Lévis, près de l'autoroute 20, pour une toute nouvelle expérience client. Notre équipe vous attend. Visitez lévissubaru.com.
Le 1er juillet approche et vous n'avez toujours pas trouvé de logement. Vous avez cherché partout et vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez compter sur les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation. Ils sont là pour vous accompagner dans vos recherches. Contactez-les sans tarder. Ce service est gratuit. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Atelier de mécanique Boisvert recrute des machinistes et des soudeurs.
Salaire jusqu'à 40 $ de l'heure avec RVER, possibilité d'overtime. Notre équipe vous attend chez Atelier de mécanique Boisvert. Vous êtes machiniste ou soudeur?
Postulez dès maintenant au alex@mecboisvert.com.
Arrêtez ce que vous faites et saisissez une rare opportunité. Le rassemblement des concessionnaires Nissan de Québec et Lévis dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi seulement. Voyez de près nos joies vedettes comme le flamboyant Kicks et comparez-le avec ses concurrents. Mettez-nous au défi. Vous verrez qu'il domine autant au niveau de la performance que du prix. En location sur 60 mois à partir de seulement 88 $ par semaine. Faites vite, ça finit mercredi. Profitez-en. Détails chez vos concessionnaires Nissan de Québec et Lévis.
Gravel et Marceau dans le Pit Stop, c'est ton nouveau rendez-vous matinal du lundi au jeudi, 7h55.
Ici, on protège personne. Tout le monde y pense.
Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine.
La plus belle promo de l'année vous attend chez Lunetterie Bélan. En plus d'être bien conseillé, obtenez une deuxième paire de verres gratuits à l'achat d'une paire de lunettes avec tout type de lentilles, qu'elles soient simple vision ou progressives. Jusqu'au 31 mai chez Lunetterie Bélan. Marie-France Proux, opticienne.
L'été, le soleil, protégez sa peau. Chez Brunet, on prend soin de la santé de votre peau avec notre trousse d'été. Activez votre coupon sur l'appli Brunet et moi et obtenez 15 fois les points moi à l'achat de 20 $ ou plus de soins solaires. Des conditions s'appliquent. Brunet, on se connaît.
Déjà au volant d'une Volkswagen? C'est le moment d'en profiter. Obtenez 1% de rabais sur votre prochaine location chez Volkswagen Saint-Nicolas. Nouveau modèle, nouvelle techno, même confiance à meilleur prix. Passez nous voir dès aujourd'hui chez Volkswagen Saint-Nicolas.
Boulevard.
Québec.
102.1.
Ville de radio. À l'écoute des citoyens.
Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous.
6h, Marceau le matin, avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonine Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlée en semaine.
Je prends quelques minutes pour vous rappeler que le balado Histoire d'entrepreneur est présenté par Marc-Antoine Reed, planificateur financier. Marc-Antoine Reed aussi, qui est un homme engagé dans sa communauté à travers plusieurs causes, travaille régulièrement de près avec des entrepreneurs, des professionnels aussi qui veulent s'incorporer. Question d'atteindre leurs objectifs financiers.